Il y a une communion universelle lorsqu'on regarde le ciel au-delà et qu'on porte nos yeux sur un peu plus loin que notre propre planète. On est tous séduits par la voûte. Lorsqu'on le fait, on voit cette grandeur et ce lointain. C'est presque pas palpable. Et ça offre un contraste avec la proximité et la rapidité de notre quotidien. Mais lorsqu'on s'y attarde, les atomes et les molécules qui nous composent sont les mêmes que celles qui composent ces corps célestes à des millions et des millions et des millions de kilomètres. Les étoiles sont composées de la même chose que nous. Et un sens d'unité frappant lorsqu'on y pense. Nous sommes tous pareils, d'une certaine façon. Mais quand est-ce qu'on se laisse la chance de voir cette perspective? Quand est-ce qu'on s'y attarde dans ce monde moderne, plutôt renfermé, où la lumière et la pollution nous empêchent d'avoir constamment ce contact avec l'au-delà? Il faut peut-être se laisser la chance de voir cet univers et ce contexte de vie qui nous porte avant toute chose. Et ça nous apporte peut-être de belles pensées, réponses de le faire. Moi, en tout cas, ça me garde fasciné et humble, malgré le reste. Je suis Raphaël Gagné et vous êtes dans ma chambre d'écho. C'était The Protest by Flying Lotus de l'album You're Dead de 2013. Et c'est vraiment une pièce subtile, moderne, qui est portante pour moi, mais qui a une vibration intéressante, un funkiness certain. Et Flying Lotus démontre que le beatmaking traditionnel dans la culture hip-hop bouge et se dynamise toujours, disperse et enlève peut-être les préjugés un peu en ce qui a trait au hip-hop. Parfois, on a l'impression que les beats sont un peu carrés, sont un peu rigides, mais si on creuse, on retrouve, comme dans n'importe quelle sphère d'art, des gens qui poussent l'enveloppe. Et pour moi, Flying Lotus est un incontournable de ce côté-là. Ces albums, qui sont aussi extrêmement intéressants, on retrouve une intensité, une variété, beaucoup d'émotions, du mouvement pur, je dirais même du mouvement pur, et pour ceux qui veulent se faire bousculer, se faire transporter dans plusieurs directions d'une pièce à l'autre, d'avoir des pièces qui sont uniquement instrumentales, puis ensuite avec des vocals de qualité, je crois que faut porter une attention particulière à ce genre d'artiste comme Flying Lotus, qui est évidemment pas le seul. Retournons à l'univers, à un sujet extrêmement vaste évidemment, très complexe, compliqué, avec beaucoup de technicalité, de numéralité, si je puis me permettre, qui requiert un approfondissement au-delà de l'heure que je vais vous offrir, évidemment, pour saisir toutes ces nuances et évidemment toutes ces technicalités derrière. Évidemment, on peut aussi ajouter à ça qu'on ne sait que très peu sur l'univers en soi. Donc, c'est encore très mystérieux, c'est ce qui nous attire. Mais il reste que c'est pas un portrait complet de la chose. mais je vais tenter d'englober, de résumer, de proposer, avec ce souci quand même de garder une simplicité, malgré le sujet qui est extrêmement dense. Donc, j'espère que c'est une proposition qui vous plaît, et je ferai cette approche-là en deux temps pour respecter l'ampleur de la chose, du sujet. Je commencerai par énumérer, expliquer la structure, la numéralité, comme je l'ai dit, les chiffres, les termes un peu plus froids, plus bruts, pour qu'on puisse se donner une échelle et comprendre peut-être le squelette. Et ensuite, on extrapolera, comme j'ai l'habitude de le faire. Débutons avec l'origine de l'univers que nous connaissons. Et on remonte à 13,8 milliards d'années dans le temps. Le Big Bang, qui est la théorie la plus plausible du commencement de cet univers, n'est en fait qu'une dilatation rapide et instantanée à partir d'un point singulier qui mène à l'espace qu'on connaît aujourd'hui. Donc, une expansion, pas une explosion typique, mais bon, on peut utiliser ce terme pour avoir peut-être une image précise en tête. Et cette expansion qui mène à un espace comme aujourd'hui avec le temps. Et il n'y a pas d'avant Big Bang. C'est un point fixe. Il y a souvent cette question-là de qu'est-ce qui s'est passé avant ce commencement. Mais il faut comprendre qu'avant le Big Bang, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de timeline, il n'y a pas de référent. Le temps est créé avec le Big Bang. Donc l'univers apparaît. Et c'est un espace sans corps céleste au tout début, qui est vide un peu. Et dans ce commencement-là, il y a un jeu de particules élémentaires qui entrent en collision et s'orchestrent ensemble. On pense, sans aller en détail, mais on pense aux électrons, positrons, photons, aux quarks qui arrivent avec ce Big Bang. Ce sont des particules extrêmement puissantes, subatomiques, et qui s'assemblent, qui entrent en contact et qui, donc, interagissent ensemble au tout début. Mais il y a pas, c'est un espace vide à l'œil. Il n'y a pas d'étoiles immenses, comme on pourrait se l'imaginer. Et suite à ça, à ce vide, certains éléments périodiques viennent s'ajouter avec le temps. La fusion nucléaire force certaines de ces particules-là qu'on a énumérées à s'assembler concrètement. Et il y a naissance de ces premiers éléments, le lithium, l'hydrogène et l'hélium, entre autres, qui sont les trois premiers éléments à entrer dans l'univers. Et puis, à la suite de ça, les corps célestes commencent à s'assembler. L'univers se refroidit après beaucoup d'années. Et après tout ce déluge d'énergie déployé au Big Bang, finit par se refroidir et permettre du renouveau. 10 millions d'années suivent. De nouveaux éléments apparaissent encore plus. De nouvelles particules, de nouveaux atomes, de nouvelles molécules. Et donc, ça se complexifie avec le temps. Ça permet l'arrivée de nouvelles particules en plus d'une température un peu plus froide. Et la première apparition de la possibilité de l'eau à l'état liquide arrive à ces 10 millions d'années environ. Et on va à 100 millions d'années un peu plus loin, et la première étoile apparaît, donc. Alors que la gravité permet aux éléments de s'assembler en quantité énorme et de former des structures plus imposantes. Donc voilà pour le commencement de cet univers. Ensuite, on saute énormément dans le temps, on arrive à la Terre. On parlera de l'évolution et de la progression de cette planète que nous connaissons. Je parlais de ce bond qu'on fait. On avance de 9,2 milliards d'années. Après ce stade où l'univers construit, s'assemble, s'orchestre, se prépare, notre planète apparaît. 4,5 milliards d'années passent, encore plus, alors que la planète subit le sort d'un univers instable. Il y a collision et température extrême, vague de vie, vague de mort, pour nous mener à aujourd'hui. Donc la Terre telle qu'on la connaît a 4,5 milliards d'années. Et nous, en tant qu'êtres humains, sommes sur Terre depuis environ 200 000 à 300 000 ans seulement. Ça représente 0,004% de l'histoire de la planète. Donc, nous ne sommes qu'un grain de sable dans le sablier de la planète, dans son historique. Il ne faut certainement pas l'oublier. Il y a une fin relative à notre système solaire. On est dans une orchestration autour d'un soleil, on tourne autour de ce soleil qui nous offre chaleur, qui est nécessaire à la vie telle que nous la connaissons. Mais il y a une fin relative à cette orchestration-là qu'on connaît. Dans 5 milliards d'années, le Soleil, qui viendra à bout d'hydrogène et d'hélium qu'il fusionne, qu'il utilise pour générer justement sa chaleur, finira par mourir. Et lorsque ça arrivera, le Soleil entraînera avec lui plusieurs des planètes, hein, parce que lorsqu'une étoile meurt, elle grossit. Et donc, le Soleil viendra à effacer les premières et les deuxièmes, secondes, tertiaires planètes dans le système solaire. Et il se trouve que nous sommes la troisième planète la plus proche du Soleil. Donc, nous serons vaporisés, vraisemblablement. Et ça, c'est si la Terre est encore là, évidemment, dans 5 milliards d'années. Hein, c'est pas gagé, c'est pas certain. Donc, il y a une fin relative même à cette structure-là qu'on croit immuable. Notre système solaire va avoir une finalité, ou plutôt la vie telle que nous la connaissons sur Terre aura affronté des défis énormes dans des temps immenses, évidemment. C'est très loin. Évidemment, on est conscient depuis longtemps que le Soleil apporte vie et que ces astres-là dans le ciel, qui sont immenses, nous affectent grandement. Et il y a donc une fascination qui est là depuis très longtemps, qui est peut-être naturelle à l'homme envers le ciel et les astres. L'astronomie n'est pas nouvelle non plus. Récente, mais pas nouvelle. La science de l'astronomie, elle, par exemple, on peut presque remonter à 3000 ans pour retrouver les premiers catalogues d'étoiles en Mésopotamie. C'est pas difficile de comprendre, évidemment, pourquoi il y a cette fascination-là avec l'espace. Hein. La grandeur, l'infini, l'intouchable et la beauté phénoménale, parle à l'être humain en général. On n'y échappe pas. On est dépendant de structures comme le Soleil pour notre survie, comme je le disais. Donc, on a un respect immuable en tant qu'être humain envers la chaleur et la fertilité que le Soleil peut nous apporter. Et en plus de ça, en plus de cette surface intéressante, il y a une profondeur technique ahurissante dans l'univers. Et c'est un carré de sable sans fond à creuser pour les scientifiques d'aujourd'hui. Ce qui explique peut-être cette fascination et cette science qui est florissante autour de l'univers et de l'espace. Laissez-moi vous présenter peut-être quelques données mathématiques pour qu'on puisse avoir une idée encore plus de la superficie des choses dans l'espace. Évidemment, lorsqu'on parle d'espace, on parle de planètes, d'étoiles, de systèmes solaires, de galaxies. Sans faire un gros plat, on peut dire qu'une planète est un gros corps céleste qui n'a pas sa propre lumière et qui orbite autour d'une étoile. L'étoile, elle, est un autre gros corps céleste, mais qui, elle, fabrique sa propre lumière par fusionnement nucléaire. Je parlais du Soleil tout à l'heure qui brûle l'hydrogène et l'hélium. Voilà, le Soleil, évidemment, est une étoile. 8 planètes dans notre système solaire et 175 satellites qui orbitent tous autour de plusieurs de ces planètes-là. Et il y a le Soleil, évidemment. Et comme je le disais, cela compose notre système solaire à nous. J'aimerais peut-être rappeler que, pour vous donner une idée d'échelle, que le Soleil, qui est le plus gros corps céleste dans notre système solaire, est 1,3 million de fois plus gros que la Terre. Hein? Donc on parle de chiffres assez massifs. Nous allons peut-être encore être plus surpris en creusant. Lorsqu'on parle de galaxies, on parle d'ensembles d'étoiles, de planètes, de gaz et de poussière qui gravitent tous ensemble. Et pour nous, notre galaxie est la Voie lactée. Il y a environ entre 100 et 400 milliards d'étoiles par galaxie, 800 et 3 trillions de planètes par galaxie. Donc c'est absolument immense comme ensemble qui gravite. Et encore plus, on estime qu'il y a 200 milliards de galaxies dans notre univers. Et donc, le nombre d'étoiles dans l'univers, si on veut se le mettre en tête, c'est un 1 suivi de 24 zéros. Assez impressionnant quand même. Mais quelles sont les distances entre ces ensembles incommensurablement grands? Considérons la distance entre la Terre et le corps céleste dans l'espace le plus proche, la Lune. Et on voit que c'est à 384 000 km. Ensuite, la distance entre la Terre et le corps céleste le plus éloigné dans le système solaire. Corps céleste, j'entends planète, évidemment. Je ne compte pas les astéroïdes ni les satellites, comme je le disais. Neptune est ce corps céleste le plus éloigné. Il est à 4,3 milliards de kilomètres. Et il faut comprendre qu'il y a des objets énormément plus loin que ça dans l'espace. Et il vient un point où les kilomètres ne suffisent même plus, même si c'est en milliards ou en trilliards. Et c'est là que l'année-lumière, comme mesure de distance, entre en jeu pour englober ces distances qui sont faramineuses. Et une année-lumière, qui est la distance que parcourt la lumière en une seule année, c'est 9,4 trilliards de kilomètres. Alors, on va dans un ordre croissant encore un peu plus gros, encore un peu plus gros, et on arrive à des nombres gigantesques. Pensons au système solaire le plus proche, qui est Alpha du Centaure, juste pour se comparer, même si Alpha du Centaure, c'est juste trois étoiles brûlantes. Il n'y a aucune perspective de vie là-bas. Alpha du Centaure est à 4,3 années-lumière. Donc, presque une quarantaine de trilliards de kilomètres. Avec les technologies d'aujourd'hui de transport spatial, pour aller chez notre voisin, ça prendrait 80 000 ans. Donc voilà peut-être une façon d'échelonner dans notre esprit les distances de l'espace. Mais l'espace, c'est aléatoire, c'est chaotique et c'est éparpillé. On a peut-être l'impression parfois qu'il y a un ordre et que, bon, puisque les planètes orbitent ensemble autour d'un soleil, qu'il y a une organisation, peut-être qu'il y en a une, évidemment, au sens très basique. Mais l'espace, c'est collision, c'est explosion, c'est vaporisation, c'est destruction qui règne. Il ne faut pas s'y méprendre. Notre système s'est stabilisé avec le temps, certes. Mais on n'a qu'à supprimer Jupiter, une des planètes de notre système solaire, qui bloque tous les astéroïdes qui viendraient vers nous. On la supprime de l'équation juste pour notre système solaire et la Terre serait sans vie. Comme je le disais, ça semble ordonné parce qu'il y a une espèce de colle qui tient les choses ensemble. Il y a des forces, on le verra, qui tiennent tout ça ensemble. L'espace, c'est la mort, le vide, le froid, l'infini, le temps, terrifiant. C'est tout le contraire de l'orchestration qu'on peut supposer avec notre regard premier, notre instinct premier de singe. Comme je le disais, tout ça est gardé en contrôle relatif par les grandes forces qui régissent tout. Et il y a quatre forces qui régissent tout l'univers, tout ce que nous connaissons, et qui le font fonctionner comme on l'entend. Il y a la gravité, qui est la force la plus faible, évidemment, on la connaît tous, qui attire deux objets, ou plus, qui ont une masse, les attire ensemble. Il y a l'électromagnétisme, qui fait interagir les particules ayant des charges, et ça, c'est une force qui domine au niveau atomique et moléculaire, hein, pour tenir les particules ensemble, les faire des éléments, comme je le disais plus tôt. Et ensuite, il y a l'interaction faible et forte qui régisse la force nucléaire à différents niveaux. Donc, il y a ces quatre grandes forces-là, mais ces forces-là mènent création peut-être parfois, mais mènent aussi à la destruction, à la collision, brûlement de gaz comme des étoiles qui brûlent à des millions et des millions de degrés. Voilà ces grandes forces de notre univers. Notre univers est en croissance infinie aussi. Je parlais du Big Bang, mais c'est un peu comme si ce mouvement du Big Bang de création est toujours en vie presque. Donc notre univers est en expansion constante. Sans arrêt. Et cette expansion-là accélère en plus. Ça va de plus en plus vite. Donc, plus le temps avance, plus les galaxies se distancent entre elles. Et ça, c'est explicable par une force qui est encore insaisissable pour nous, qu'on surnomme l'énergie noire. Donc, il faut quand même comprendre que notre univers n'est pas statique. Même la toile de fond s'étire avec le temps. Mais qu'en est-il de cet univers-là? A-t-il une fin, lui aussi? Il semblerait que oui. Beaucoup de théories mènent à ça, évidemment. Mais il semblerait qu'on puisse répondre oui à cette question. Il y aurait une mort de l'univers. Et dans combien de temps? Dans 10 factorisé par 10 à la 10 à la 56 années. Essayez de comprendre ça, de mettre une perspective sur ça. Il y a plusieurs théories suite à, comme je l'ai dit, suite à cette mort. Il y aurait le Big Rip, qui est un éclatement de l'univers à force de s'étirer. Il y aurait le Big Crunch, qui est un Big Bang à l'envers un peu, un retour au point zéro. Il y a aussi la mort thermique de l'univers, entre autres, qui expliquerait aussi que, bon, plus l'univers s'étend, plus l'énergie disponible dans cet univers-là se répartit équitablement. Et lorsque l'énergie est parfaitement répartie, après un nombre de temps, comme on l'a dit, énorme, eh bien, un froid se crée, un refroidissement global se produit qui ne permet plus au reste de l'univers de fonctionner parce qu'il n'y a plus de transfert d'énergie, de création, d'engendrement, de mouvement. Donc, cet univers-là, je vais donner les distances et les nombres, les chiffres bruts. Et on se rend compte qu'il y a une vastitude incroyable. Il y a un historique qui remonte à des milliards d'années. Il y a un nombre de corps célestes comme nous incalculable. Il y a destruction et chaos qui trônent au sommet. Il y a des forces élémentaires imperturbables qui régissent la physique même du monde. Et c'est d'une immensité ridicule. Mais comment peut-on décortiquer ce contexte-là, ce sous-texte qui nous est inchangeable et s'en servir pour expliquer peut-être et chercher notre chemin dans le céleste?
I was raised up believing I was somehow unique, like a snowflake, distinct among snowflakes, unique in each way you can see. And now after some thinking, I'd say I'd rather be a functioning cog in some great machinery, serving something beyond me. But I don't know what that will be. I'll get back to you someday, soon you will see. What's my name? What's my station? Oh, just tell me what I should do. I don't need to be kind to the armies of night that will do such injustice to you, or bow down and be grateful and say, should take all that you see to the men who move on me in dimly lit halls and determine my future for me. Should I wait for anyone else? And I know you will keep me on the shelf. I'll come back to you someday, soon, myself.
wait tables in the cinnamon store. Gold hair in the sunlight, my light in the dawn. If I had an orchard, I'd work till I'm sore.
C'était Fleet Foxes avec la chanson Helplessness Blues, de l'album intitulé également Helplessness Blues de 2011. Et voilà un excellent folk, je dirais, à saveur du jour, avec un build-up juste, des vocaux sublimes qui me font penser aux Beach Boys par moments, des textes réfléchis aussi. Fleet Foxes nous rappelle dans cette chanson-là que de chanter le blues de l'impuissance devant la grandeur du monde et devant cet univers ne mène nulle part. Il faut prendre sa part, peut-être, nous suggère-t-il, sa part de responsabilité, et foncer. Et je crois que c'est un message qui est important et on verra pourquoi. Le dernier album, Crack Up, qui est paru il y a quelques jours, on est en juin, paru quelques semaines déjà, est un album plus expérimental après 6 ans d'attente. Pour moi, quand je vois un artiste ou un groupe qui prend 5, 6, 7 ans avant de publier un album, ça me fait pas peur. J'ai pas peur de la cohésion entre les membres. Parfois, c'est le réflexe qu'on a de réfléchir à l'artisterie. Peut-être lorsque ces gens prennent des breaks, on a tendance à avoir peur. Mais pour moi, ça me signifie surtout que je dois apprécier l'artiste qui prend son temps, qui respecte le processus. On peut pas pondre un album de la musique sans avoir le cœur à l'ouvrage, sans avoir l'inspiration qui est là. Et ça contraste avec ceux qui veulent capturer l'éclair en bouteille. Hein. On parle en musique, donc c'est partout, mais plus en musique, ces groupes qui publient des albums et enregistrent des albums sans arrêt, c'est ce duel qualité versus quantité. Deux approches intéressantes à considérer, deux philosophies intéressantes, deux façons de faire pertinentes, selon moi, dans le monde de l'art, dans le monde de la création et ailleurs. Et Fleet Foxes me fait penser, donc, comme je le disais, à ce respect de l'artisterie. Et je crois que, soniquement, ça s'entend qu'il y a une recherche, qu'il y a un travail, qu'il y a une maîtrise certaine. Alors voilà, quelques pensées à ce niveau. Prenons l'angle maintenant un peu plus expérimental pour aller regarder l'analyse et comment faire cette analyse de l'univers. Il y a quelques questions et théories qui surgissent dans mon esprit lorsque je réfléchis à ça. Évidemment, on pense à l'exploration spatiale parce qu'en tant qu'être humain, on aime ça. Lorsqu'on a un défi de taille, on le prend souvent. Donc, il y a ce défi d'exploration spatiale et d'aller voir ailleurs. Et il y a ces questions qui viennent avec l'exploration spatiale. Et il y a le dilemme de s'occuper des problèmes sur Terre avant d'aller voir ailleurs, avant de les rechercher ailleurs. On entend souvent ces questionnements-là, ces craintes-là. Mais pour moi, c'est une fausse dichotomie. C'est important de continuer à construire vers l'espace parce que c'est une source intarissable de problèmes qui demande investigation et solution. C'est un terrain de jeu parfait pour l'être humain. En plus d'avoir peut-être des possibilités à offrir pour notre futur. Et on a ce devoir de cultiver en nous cette difficulté de rester curieux, d'être ouvert sur autre chose que nos circonstances proches, nos problèmes proches. Terre et espace peuvent et doivent cohabiter selon moi. Mais lorsqu'on a fait cette acceptation-là qu'on doit explorer l'espace et accepter le challenge, il y a cette question de rester ou de déménager qui surgit. On pense peut-être à l'épuisement de la planète et ce qui surviendra si on arrive à ce point un jour, si on ne contrôle pas notre usage de cet environnement, qu'est-ce qui arrivera après? Est-ce qu'on arrivera à un point où la Terre est trop épuisée ou soumise à de trop gros changements climatiques et on ne peut pas rester? Elle est extrêmement sensible à la température, on l'oublie, mais un 20 degrés de plus sur la planète ou de moins, et ça devient énormément difficile de voir un futur pour l'être humain presque immédiatement. On se croit extrêmement fort, mais nous restons très fragiles, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on réussira à stabiliser la situation pour pas qu'on en arrive là en tant qu'être humain? De ne pas avoir ce choix-là forcé de « il faut absolument déménager ». Et même stabiliser, est-ce qu'on veut coloniser l'espace en tant qu'espèce? C'est une autre question extrêmement intéressante. Pour moi, il paraît inévitable que dans quelques décennies, l'homme, soit déjà en train d'entreprendre ce processus, en commençant par Mars, évidemment, qui est très proche. Pour le reste, la technologie est imprévisible et avance tellement vite. Est-ce qu'on va frapper un mur de progrès à un moment donné qui nous empêche de poursuivre le processus d'exploration et d'investigation? Je rappelle que la vitesse de la lumière, qui est une loi de la physique presque immuable, si on avait un vaisseau qui va à la vitesse de la lumière, ce qui est extrêmement loin d'arriver, ça prendrait 25 000 ans pour se rendre à la prochaine galaxie la plus proche. Pour aller explorer un deuxième monde, évidemment, il y a énormément de choses à voir dans notre galaxie, comme on l'a vu, mais juste pour donner une échelle. Donc, la technologie va peut-être être une barrière pour l'être humain. Il va falloir percer. Mais on trouve souvent le moyen de percer avec notre ingéniosité. On espère juste que le cerveau humain va rester fertile à long terme. Et même si on part et on décide d'aller ailleurs, d'aller coloniser quelques planètes, d'aller voir d'autres mondes dans un futur quelconque, peut-on rester nous-mêmes sans notre cabane, sans notre première et notre seule maison? Est-ce qu'il n'y aurait pas une perte d'identité lorsqu'on quitte la seule terre connue? Ou est-ce que c'est juste pour les quelques premières générations qui font une transition? Je dirais que l'homme, malgré tous ces questionnements-là, doit faire face à l'inconnu, s'il le peut, et repousser ce qu'il définit continuellement. Parce que le statique intellectuel pour l'être humain, c'est la mort. Et on essaierait d'éviter certainement la mort, je crois. On n'a jamais rien connu d'autre que la Terre, c'est certain. Et peut-être, oui, que l'essence même de l'homme sera appelée à se transformer grandement s'il devient une créature qui envahit et qui va ailleurs. Peut-être que la philosophie globale de l'être humain sera appelée à se transformer de façon majeure pour permettre la suite des choses. Et qu'en est-il de la vie extraterrestre? Ça semble toujours être une fiction, mais laissez-moi vous dire qu'il semble extrêmement improbable que nous soyons seuls dans l'univers. Il y a plusieurs études qui sont posées à ce niveau et on n'a pas de réponse certaine, mais on a des estimés intéressants peut-être que j'aimerais présenter. Il y a une probabilité de 1 sur 10 milliards de trillions que nous soyons la première civilisation avancée de l'univers. Donc, ce que ça veut dire, c'est non seulement potentiellement qu'en ce moment, il y a d'autres civilisations qui sont avec nous dans l'univers. Les civilisations demandent une forme d'intelligence avancée, évidemment, mais ça veut peut-être dire aussi qu'avant notre arrivée, nous sommes là depuis les 200-300 000 ans, notre univers a environ 9 milliards d'années de plus vieux que notre planète. Donc, ça veut peut-être dire qu'avant notre arrivée, il y a eu des civilisations qui ont monté, qui sont redescendues, comme ce qu'on vit en ce moment. Et il y a environ une chance sur 60 milliards qu'une planète habite une espèce de vie intelligente. Et si on peut retirer ces chiffres-là, qui ne sont que des estimations, je le rappelle, avec des équations, prennent en compte les conditions pour la vie. L'eau liquide, la distance d'un soleil, la présence d'un soleil, une planète pas trop grosse, une planète... Bon, la liste est longue. Mais on tient compte de ces conditions-là pour l'équation de Drake en particulier. une chance sur 60 milliards, comme vous l'avez vu, une chance sur 60 milliards semble être une assez bonne chance quand même dans un univers où il y a beaucoup plus que des milliards de planètes. Il y a 100 et 400 milliards de planètes dans notre propre galaxie. On pense au reste de l'univers, on additionne avec le nombre de galaxies, etc. Et une chance sur 60 milliards nous informe que nous ne sommes presque certainement pas seuls dans cet univers. Et même pas dans notre propre galaxie, probablement. Mais pourquoi n'avons pas fait ce contact avec la vie extraterrestre? Évidemment, il y a des théories multiples et des réponses multiples qui s'offrent à nous. L'univers est peut-être trop grand. Nous sommes peut-être seuls aussi parce que nous sommes une des premières planètes à avoir vu le jour dans cet univers. Je vous l'ai dit, l'univers va mourir dans 10 à la 10 à la 10 à la 56 années, techniquement. Et donc, il reste 92% des planètes totales qu'on estime à voir le jour. Nous faisons partie du premier 8%. Nous sommes donc peut-être arrivés un peu trop tôt pour voir cette vie ailleurs. Peut-être que nous sommes les seuls survivants aussi. Peut-être que toutes les autres vies ont été détruites et sont mortes. Mais peut-être aussi qu'il reste plus de recherches nécessaires à faire. Et je pencherai vers cette explication. L'univers est immense, on l'a vu. Nous devons nous donner le temps peut-être de faire les recherches, de faire nos devoirs, parce que les probabilités sont fortement en faveur de la vie ailleurs que sur Terre. On parlait de l'univers comme étant cette toile infinie sur laquelle nous nous apposons. Et cet univers est immense comme nous l'avons vu. Mais si je vous disais qu'il y a plusieurs univers, comme il y a plusieurs planètes, comme il y a plusieurs étoiles, comme il y a plusieurs systèmes solaires, galaxies, et s'il y avait plusieurs univers en plus, c'est ce que plusieurs scientifiques commencent à penser. Que nous sommes une bulle parmi un chaudron qui bouillonne constamment et génère de nouveaux mondes. Et pour ceux que ça intéresse, il suffit d'aller regarder en physique quantique où il y a plusieurs lois qui se contradisent et qui font pas de sens, et de la téléportation de particules, etc. Et plusieurs scientifiques pensent qu'on puisse expliquer ces incongruités par de multiples univers. Imaginez. Certains penseurs aussi s'attardent à la vie sur Terre, retournent à l'essence peut-être un peu, et proposent d'autres explications. Hein? Une d'entre elles, c'est que notre vie, notre univers, n'est qu'une simulation virtuelle d'une civilisation extrêmement avancée qui fait des tests, qui observe à travers une simulation, presque un jeu vidéo, qui observe des formes de vie un peu moins distinguées. Mais je vois dans ces propositions-là une audace de la prédiction et de la compréhension sur une lentille qui est biaisée. Nos référents sont mauvais pour prédire ce que d'autres civilisations extrêmement plus avancées que nous feraient. Pourquoi tenter de prédire ce qu'une civilisation voudrait faire et pourquoi voudrait-elle regarder ce qu'une forme de vie plus faible et moins avancée veut faire? Ça me semble venir du même souci que la religion qui désire un ou des créateurs omniscients. On veut trouver une réponse binaire. Est-ce que la réponse est là pour nous à capter? Est-ce qu'il y en a une réponse? J'en viens aussi à faire plusieurs réalisations peut-être vis-à-vis de l'univers. Et on en vient en tant qu'espèce lorsqu'on pense à l'espace à faire ces réalisations-là universelles. On vient respecter la grandeur relative des choses. On n'est qu'une créature minuscule face à l'immensité du reste. Mais ce n'est pas une réalisation nouvelle, évidemment. On l'a fait presque tous. Et on en vient à vouloir dévaluer notre importance individuelle, puis ensuite l'importance de la vie, et puis de la race humaine, et puis du sort de la Terre. Et c'est ça qui arrive lorsqu'on joue au jeu des comparaisons. Il faudrait peut-être revenir à l'essentiel du pouvoir qu'on a et respecter l'opportunité. On en vient aussi à voir l'absurdité et le bizarre de tout ça. C'est tellement particulier comme organisation de monde qu'on tente de ramener l'ordre en tant qu'être penseur. C'est une tâche impossible. On tente d'expliquer ce qui est hors de notre contrôle. J'aimerais aussi tuer le créationnisme avec ces réalisations-là. On peut que rire devant ceux qui pensent encore à l'être divin qui génère dans son infinie puissance un monde et qu'il fait en faisant des sphères rondes qui orbitent et permettent la vie dans des conditions purement physiques et mathématiques. L'être omniscient, selon moi, créerait un monde uniforme, plat, affable, rangé. Notre univers est plein de contradictions, de chocs, de vides absolument inimaginables et presque le contraire d'une création soignée. Oui, c'est absurde. Oui, c'est bizarre, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit supposer qu'il y a un être penseur devant tout ça, qu'il y a un plan. On en vient aussi à comprendre que le cerveau animal, qui est proximal, est mal adapté devant un univers qui est trop technique et massif pour lui. On ne pourrait pas être plus mal outillé pour comprendre autre chose que l'immédiat ou le siècle, parce que notre durée de vie tourne autour de ces temps-là. Nos référents sont mauvais pour comprendre l'univers, les distances de l'univers, les mesures de l'espace. Notre cerveau est fait pour comprendre la survie animale et non ce que c'est un milliard d'années ou une année-lumière. Comme je l'ai dit, pourtant dans l'univers, tout se calcule à ces mesures-là. Et oui, on se sent petit vis-à-vis de l'infini. Oui, il y a une petitesse de l'existence dans la technicalité et la réalité. Mais c'est intense aussi à notre vraie échelle de mesure qui est humaine, qui est proche. Elle est là, notre vraie mesure de comparaison. Il ne faut pas se méprendre et juste se plier devant la grandeur. Et le danger est là, de tomber dans ce nihilisme incompétent qui fige, de penser qu'il n'y a pas de meaning, qu'on meurt, que l'univers est loin, énorme. Comme je le disais, c'est une comparaison futile qui n'a aucune utilité pour nous. C'est de regarder le contenu versus le contenant, alors que le contenu n'a pas les mêmes variables que le contenant. Donc, il n'y a pas de comparaison facile à faire ou intelligente à faire entre les deux. Tout de même, il faut respecter la grandeur et se donner une perspective honnête des choses. Parce qu'il y a vérité dans la pensée neutre. On ne prend pas trop sérieux, on ne doit pas tout prendre au sérieux. On doit se laisser glisser parfois et apprécier l'erreur pour cultiver l'apprentissage et être humble. Et le défi aussi devant un monde immense, c'est de mêler contribution et vocation personnelle. On veut aider la grande cause humaine qui peut tenir le plus pour nous ce flambeau, cette cause humaine qui nous dépasse et qui se rapproche plus de l'univers, tout en faisant ce qu'on aime profondément. Il faut mêler ces deux mondes-là ensemble, peut-être, pour avoir le vrai meaning humain que l'on crée. Il ne faut pas non plus éviter de penser à l'espace. Il faut cultiver cette connaissance et respecter cette grandeur, parce que c'est trop facile de prendre pour acquis l'immédiat et perdre contact avec la structure et l'arrière-plan dans ce cas-ci qui est spatial. Évidemment, j'aimerais aussi référer au grand vulgarisateur dans la science de l'astronomie, de l'astrophysique. Parce que ces sphères physiques, mathématiques-là, théoriques, techniques, mystérieuses et denses nécessitent l'écoute de gens qui dédient absolument leur vie à ça. Et pour moi, Neil deGrasse Tyson ou Carl Sagan sont d'excellents points de départ. Pour finir, on comprend que l'univers et sans obligation à faire du sens pour l'être humain. C'est à nous de reconnaître nos limites et de faire confiance à la science, même si elle peut être contre nature dans certains domaines. Il faut aussi accepter et porter fièrement la confusion d'un monde qui n'est pas conçu pour et autour de nous. On pense aux distances, aux superficies, aux forces destructrices qui nous dépassent. Il faut les accepter. On comprend aussi l'immensité de cet univers. Avoir les chiffres en tête et jeter un coup d'œil au ciel glace le sang tellement c'est grand. Et on est condamné peut-être à se sentir minuscule dans notre simplicité et de devoir jongler avec cette réalité qui est incrustée en nous. Et qu'on le veut ou non, on fait partie d'un chaos infini. Le plus bel élément de notre monde, ça reste la vie. Nous sommes la poésie de cet univers, quoi qu'il en soit. Il faut comprendre aussi que notre terrain de jeu est fixe, hors de notre contrôle direct, et tellement obtus qu'on risque de s'y perdre. Mais la beauté dans tout ça, c'est qu'il y a des possibilités infinies et des opportunités gigantesques dans un terrain de jeu qui est ouvert à tous. On se doit aussi de contempler cette beauté qui dépasse le tact humain et de retourner aux sources et de respecter cette grandeur. Nous sommes l'enfant des étoiles, de la destruction qui engendre, du cercle qui veut spiraler, mais on est inséparable du vide galactique et prisonnier de l'infini, pour le meilleur et pour le pire. Une chose est sûre, l'univers n'attendra pas après nous. Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode sur un sujet peut-être un peu plus dense et complexe vous a plu. Si vous voulez me suivre de semaine en semaine, écoutez les épisodes, c'est sur YouTube, iTunes ou Google Play. Pour le reste, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.